Vous écoutez, on lit pour vous.
Santé Canada met en garde contre les crèmes solaires faites maison. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 19 juillet 2024 dans Le Devoir. De plus en plus courantes sur les réseaux sociaux, les recettes d'écrans solaires faits maison donnent des produits qui ne protègent fort probablement pas des rayons UV nocifs du soleil, avertit Santé Canada. Le ministère fédéral conseille donc à la population d'éviter de recourir à ces crèmes artisanales, faites notamment d'huile de coco, de cire d'abeille ou de beurre de karité. Avec un produit qui n'est pas efficace, le danger est qu'on a un faux sentiment de sécurité. On croit qu'on est protégé alors qu'on ne l'est pas. Puis ça a des conséquences, affirme en entrevue Michel Alsaillé, président de l'Ordre des chimistes du Québec. Santé Canada rappelle d'ailleurs que l'exposition au soleil sans protection adéquate est la principale cause de cancer de la peau. Au cours de sa vie, une Canadienne sur 73 aura un mélanome, qui est une forme de cancer de la peau. Chez les hommes, ce taux s'élève à 1 sur 59, indique-t-on sur le site du gouvernement fédéral. D'où l'importance de s'enduire uniquement de produits solaires homologués, poursuit M. Alsaillé. Ceux-ci portent un numéro d'identification du médicament, DIN, ou un numéro de produit naturel, NPN. Ce sont des gages de qualité, souligne-t-il. Santé Canada réitère que les crèmes solaires homologuées sont sûres lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions. Associées à d'autres mesures de protection solaire, telles que le port de vêtements protecteurs, la recherche de l'ombre et l'évitement des heures d'ensoleillement maximales, les écrans solaires réduisent le risque de développer un cancer de la peau et protègent contre les coups de soleil et contre le vieillissement prématuré de la peau. Le ministère fédéral souhaite ainsi s'attaquer à la désinformation sur ces produits qui circulent sur les réseaux sociaux, où des internautes affirment parfois que les écrans solaires homologués contiennent des ingrédients nocifs pour la peau et qui peuvent causer le cancer. Ce sont de fausses peurs, ce sont de fausses craintes, soutient le président de l'Ordre des chimistes du Québec. Malheureusement, une fausse information peut faire beaucoup de chemin, ajoute-t-il. Devoir d'éducation. Il est vrai que certains ingrédients utilisés dans des recettes de crème solaire maison peuvent bloquer un peu les rayons UV, explique Jonathan Jarry, communicateur scientifique à l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill. Mais ce n'est tout simplement pas assez pour protéger la peau lors d'une exposition au soleil. Une crème solaire, on veut que ça bloque les rayons UV nocifs. Mais on veut aussi que ce soit stable lorsqu'elle est exposée aux rayons du soleil et à la chaleur, et elle doit aussi avoir une certaine résistance à l'eau, alors que les ingrédients naturels qu'on voit dans les recettes maison ne le sont pas, précise-t-il. Il reste encore beaucoup d'éducation scientifique à faire, affirme Jonathan Jarry. On voit de la chimiophobie, où les gens ont une peur irrationnelle des produits chimiques et pensent que tous les produits chimiques sont des toxines alors que ce n'est pas le cas. Et on pense par ailleurs que tous les produits qu'on voit dans la nature sont bons pour nous, alors que ce n'est aussi pas le cas. La science est compliquée, poursuit M. Jarry. Il y a des nuances et, malheureusement, sur les réseaux sociaux, ça passe très mal. Avec la désinformation qui circule en ligne, Michel Alsaillé met en garde les internautes contre ceux qui se proclament spécialistes d'un domaine. Qu'est-ce qui fait que cette personne peut dire qu'elle est experte? Relève-t-il. Un chimiste ou un pharmacien, par exemple, fait partie d'un ordre professionnel, poursuit M. Alsaillé. On est donc imputable de ce qu'on va dire. On ne peut pas commencer à répandre des balivernes qui ne sont pas prouvées scientifiquement ou des informations qui ne sont pas révisées par les pairs. C'était Santé Canada met en garde contre les crèmes solaires faites maison, un texte de Florence Morin-Martel paru le 19 juillet 2024 dans Le Devoir.
Fin enfin des rabais sur les achats multiples. Une bonne affaire? Vraiment? Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 11 juillet 2024 dans La Presse. La décision de l'Oblat de supprimer les rabais sur les achats multiples chez Maxi pourrait égaliser les règles du jeu pour tous les consommateurs, mais les effets à long terme sur les prix et le choix restent aléatoires. Même si certains perçoivent cette mesure comme une victoire, elle pourrait priver les grandes familles et les groupes d'une chance d'économiser. Début juillet 2024, l'Oblat a annoncé la fin des rabais pour les achats à volume, par exemple 2 pour 5 $ ou 3 pour 10 $. Cette stratégie créait un sujet de discorde parmi les consommateurs depuis des années. Le comité parlementaire et le bureau de la concurrence ont longtemps critiqué cette pratique et même le ministre François-Philippe Champagne a appelé à sa fin. Plusieurs groupes démographiques, notamment les personnes vivant seules ou les personnes âgées qui consomment moins de nourriture, considéraient cette pratique, connue sous le nom de « rabais sur le volume », comme discriminatoire. Selon un sondage mené par l'Université Dalhousie et Cadell l'année dernière, 38,1% des Canadiens n'aimaient pas cette stratégie et souhaitaient sa fin. La seule autre stratégie de l'industrie plus détestée était la réduflation. Lorsque la quantité d'un produit alimentaire est réduite, tandis que le prix demeure le même. Les rabais sur le volume ont fait leur apparition il y a des années, en réponse à une augmentation des achats en gros par les consommateurs. Un modèle largement inspiré par Costco qui encourageait les consommateurs à acheter en grande quantité, soutenant l'idée que des quantités plus importantes offraient de meilleures affaires. À mesure que les rabais sur le volume gagnaient en popularité, les critiques se multipliaient. Beaucoup affirmaient que cela conduisait à plus de gaspillage alimentaire, car les consommateurs se voyaient obligés d'acheter plus de nourriture pour obtenir une meilleure affaire. Cependant, une étude récente publiée dans l'European Economic Review a révélé que la fin des rabais sur le volume avait des conséquences inattendues. Les épiciers, dans certaines régions d'Europe, ont commencé à offrir plus de rabais sur les unités individuelles, motivant les ménages à haute consommation à faire leurs courses plus fréquemment et à acheter davantage. L'Oblat a probablement lu cette étude. Inversement, une étude dans Health Economics suggérait que les achats multiproduits incitaient davantage de consommateurs à acheter de plus grandes quantités d'aliments malsains. Mettre fin à cette pratique découle certainement d'une décision politique astucieuse pour l'Oblat et sera probablement considérée comme une victoire par de nombreux consommateurs. Cependant, les véritables répercussions dépendront de la façon dont Maxi fixera ses prix à l'avenir. Les achats multiproduits ou les rabais sur le volume bénéficiaient à la fois aux détaillants et aux fournisseurs ayant des excédents de stock ou souhaitant promouvoir certains produits. Il est donc fort possible que les relations entre l'Oblat et ses fournisseurs aient changé. Ce changement ne garantit pas une baisse des prix et ne signifie pas que les offres deviendront plus abordables pour les petits ménages. Il assure simplement que tout le monde se verra traité de la même manière, ce qui ne se traduit pas nécessairement par un traitement bonifié ou plus abordable. En fin de compte, nul ne sait si cette décision est la meilleure pour les consommateurs, car elle pourrait en priver certains de l'occasion d'économiser grâce aux rabais sur le volume. Les grandes familles et les groupes tiraient des avantages de ces réductions. Les rabais sur le volume aidait également la chaîne d'approvisionnement à gérer les stocks plus efficacement. La solution idéale serait d'offrir la même remise au prix unitaire à ceux qui la demandent. Une pratique déjà en vigueur chez certains épiciers. Les prix chez Maxi devront faire l'objet d'une surveillance accrue pour déterminer si ce changement profite réellement aux consommateurs. Si l'oblat promet des bas prix, en particulier chez Maxi, l'entreprise devrait honorer cette promesse sans les rabais sur les achats multiples et éviter d'utiliser cette décision pour augmenter les prix pour tous, simplement pour apaiser une minorité vocale. Il sera également pertinent de voir si d'autres épiciers suivront cet exemple. C'était fin des rabais sur les achats multiples. Une bonne affaire? Vraiment? Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 11 juillet 2024 dans La Presse.
Les ressources humaines vous rendent malheureux? Un texte de David Segal du New York Times, paru le 6 août 2024 dans La Presse. Levez la main. Qui en a assez des ressources humaines? Peut-être êtes-vous irrité par le flux incessant de messages et de formulaires, dont beaucoup doivent être remplis au plus vite. Peut-être êtes-vous irrité par les ressources humaines, RH, qui ne semblent jamais à court de nouvelles initiatives, qui ne sont pas toutes nécessaires ou particulièrement judicieuses, à votre avis. Ou bien vous avez un problème avec la direction et vous ne croyez pas que les représentants des RH vous aideront réellement. Ils sont certes sympathiques, mais ils sont payés à la tâche. En cas de crise, on sait très bien de quel côté ils se trouvent. Les services de ressources humaines dérangent beaucoup d'employés et de cadres, et ils semblent avoir plus de détracteurs que jamais depuis la pandémie. C'est à ce moment-là que les RH ont commencé à administrer les règles relatives au travail à distance et à la transparence des salaires, les programmes visant à améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion, et tout ce qui a secoué et modifié le lieu de travail au cours des 4 dernières années. Mais si le service des ressources humaines vous dérange, voici un fait qui pourrait vous consoler de manière un peu ironique. Vous n'êtes pas aussi irrité ou déprimé que les personnes qui travaillent dans les RH. C'est ce qui est ressorti de Unleash, conférence annuelle de 3 jours qui s'est tenue en 2024 au Caesars Forum, immense salle de congrès située à proximité de la Strip de Las Vegas. En mai, l'événement a rassemblé environ 4000 professionnels des ressources humaines venus de partout. La conférence a été présentée comme un lieu où les leaders mondiaux des ressources humaines viennent pour faire des affaires et découvrir des histoires inspirantes. Il s'agissait plutôt d'un endroit où les professionnels des ressources humaines sont venus se plaindre. Tout ressemble à un parcours du combattant, a déclaré Kyle Lagunas, ancien cadre des RH chez General Motors, qui travaille aujourd'hui chez Aptitude Research, société de conseil en RH de Boston. Il venait de terminer une présentation très animée sur les technologies RH devant un public d'environ 50 personnes. Il s'est assis dans la salle de presse réservée à cet effet et s'est mis à disserter sur les défis exaspérants que représente la gestion des ressources humaines pendant et après les turbulences de la pandémie. Pendant des années, nous avons lutté contre le feu avec des bidons d'essence. Et maintenant, nous sommes là, après avoir littéralement donné tout ce que nous pouvions, et on nous dit « Oh, merci pour tout, mais et voici la version censurée, allez vous faire voir ailleurs. Ne travaillez pas trop fort pour moi, je suis l'entreprise et vous êtes les RH. D'autres notes à venir. La frustration vient en partie du fait que le comportement au bureau après la COVID-19 est devenu nettement moins courtois. Ce qui signifie que les RH sont appelés beaucoup plus souvent pour arbitrer des conflits. Tout le monde à Unleash a eu une anecdote concernant l'explication de l'étiquette de base à des collègues insolents, impolis ou vulgaires. Non, vous ne pouvez pas faire chauffer du poisson au micro-ondes le midi. Et ne vous coupez pas les ongles d'orteils sur votre bureau. N'apportez pas d'armes à feu au bureau. Les RH savent que les employés et les gestionnaires sont agacés par leurs notes, par leurs processus, par tout ce qui interrompt la vie telle qu'elle était. Lorsqu'un courriel est envoyé pour inciter tout le monde à suivre ce tutoriel en ligne de 45 minutes sur, par exemple, la sécurité des données, les RH peuvent presque entendre les sourcils qui se froncent. Cela dit, ne vous attendez pas à des excuses. Le consensus qui s'est dégagé lors de la conférence Unleash est que la plupart de ces nouvelles idées, une plus grande diversité, par exemple, ou des évaluations normalisées du lieu de travail, sont conçues dans le but de rendre le lieu de travail plus équitable. Il faut donc s'habituer aux notes de service. Par ailleurs, pendant que vous vous plaignez, habituez-vous au logiciel de gestion du capital humain. Un récent article de Business Insider, intitulé « Tout le monde déteste Workday », demandait pourquoi la moitié des entreprises du classement Fortune 500 utilisaient ce logiciel particulier qui gère les avantages sociaux et le recrutement et facilite l'analyse de l'équité salariale, même s'il crée une montagne de travail pour tout le monde. Ce n'est pas la faute du logiciel, disent les vétérans des ressources humaines. C'est la faute de votre entreprise qui ne l'a pas configuré judicieusement ou ne vous a pas formé de manière adéquate. Workday et les autres logiciels du même genre sont là pour de bon. Taux de roulement très élevé. La plupart du temps, cependant, le ton à Unleash était détendu et convivial. Les participants ont échangé des idées et tissé des liens lors des conférences, des repas et des cocktails organisés après les heures de travail. Ils ont reçu des cadeaux, comme des furets en peluche, offerts par une société de filtrage des réseaux sociaux appelée Ferretly. Ils ont mangé des gaufres végétariennes trempées dans du chocolat. Ils ont assisté à une compétition de type Shark Tank entre 5 jeunes pousses technologiques liées aux ressources humaines, toutes en lice, pour un chèque de 50 000 $ US. Dans un cadre moins officiel, les participants se sont plaints des salaires trop bas, de la faible rétention des effectifs et de l'augmentation de la charge de travail. L'un d'entre eux a parlé d'une dépression induite par le travail. Les participants se sont beaucoup inquiétés de l'intelligence artificielle qui semble prête à prendre des emplois dans le domaine du recrutement. De nombreux cadres des RH ont quitté le secteur ces dernières années ou sont à la recherche de meilleures offres. En 2022, LinkedIn a constaté que le taux de roulement en RH était le plus élevé de tous les emplois suivis. « Tout le monde nous déteste », a déclaré Eba Youssef, responsable des ressources humaines chez Workweek, qui propose une émission balado et une lettre d'information pour les professionnels des ressources humaines intitulée « I hate it here, je déteste cet endroit ». Parmi les articles publiés, citons « Pourquoi les RH se sentent-elles si seules ?» et « Tout le monde déteste son travail, n'est-ce pas ?» Madame Youssef déplore en particulier la méfiance des employés à l'égard des RH. « C'est décourageant, dit-elle, car la plupart des gens se lancent dans ce domaine pour être utiles. Les RH ont tendance à faire preuve de beaucoup de compassion et d'empathie. Mais beaucoup d'employés nous considèrent comme les représentants du mal. » C'était « Les ressources humaines vous rendent malheureux ?» Un texte de David Segal du New York Times, paru le 6 août 2024 dans la presse.
Souvenir d'un mentor autodidacte et curieux. Un texte de Julie Dupage, paru le 19 août 2024 dans la presse. Alain Delon, 1935-2024. Vous vous souvenez de cet homme derrière les émissions à gags surprise-surprise? Tout a commencé grâce à lui, Marcel Béliveau. Est-ce que ça tente de piéger M. Alain Delon? J'avais 19 ans, et Marcel savait que je partais m'installer à Paris. Il m'avait proposé de travailler sur ses productions pour faire un peu d'argent. C'est pour cette raison que j'ai piégé plusieurs vedettes françaises et, entre autres, M. Alain Delon. C'était un vendredi soir, à Neuilly-sur-Seine, banlieue chic parisienne. Nous avions rendez-vous dans l'appartement d'un producteur intéressé à travailler avec Delon. C'était un grand repas, avec plusieurs convives, dont un petit garçon muni d'une oreillette qui jouait au surdoué de service et qui répondait à toutes les questions posées. Alain était fasciné par ce génie, mais ne savait pas encore qu'il y avait des gens en régie qui fournissaient toutes les réponses. Je me souviens d'avoir très mal dormi la veille du gag, puisque mon rôle était d'incarner une jeune écervelée, pour ne pas dire une idiote, qui interrompait sans cesse la conversation pour dire des niaiseries. Oh boy! Moi, grande fan de cet acteur mythique aux nombreux films cultes, comment allais-je faire? Mon orgueil en prendrait un sacré coup. L'idée me tétanisait. La présence de M. Alain Delon était si forte que j'ai cru me liquéfier quand il est entré dans la pièce. Le temps aurait pu s'arrêter là, mais j'avais un boulot à faire, balancer des âneries. Le gag s'est très bien déroulé, mais ne fut malheureusement jamais diffusé. Alain Delon s'y était opposé, prétextant le cheveu gras. Pourtant, il aurait mérité qu'on le découvre sous cet angle, non pas à cause du cheveu gras, mais bien parce qu'il émanait de lui quelque chose d'authentique, de vrai. Je crois avoir bien joué mon rôle, puisqu'à la fin du repas, M. Delon est venu me féliciter. Quel soulagement! Bref, le lundi matin, je recevais un coup de téléphone de mon agent français. « Ma chérie, Delon ne tarit plus d'éloges sur toi. Il t'a trouvé hilarante dans ton rôle de nunuche. Il te veut dans son prochain film, dirigé par Jacques Deré en Italie. Tu rencontres Jacques cet après-midi et tu pars dans 4 jours. » Promis, j'aurais craché. Les événements se sont passés comme ça. Un tourbillon. Le film en question ne passera pas à l'histoire, ni le second tourné avec lui d'ailleurs, mais c'était une expérience formidable et unique. Surtout, une rencontre déterminante. À Rome, il m'arrivait parfois de manger seul avec M. Delon après une journée de tournage. Il me racontait tout. Ses débuts, ses parents, à qui il reprochait de s'adresser à lui comme à une star et non comme à un fils. Sa carrière, Visconti, Melville, Belmondo, ses amours, etc. J'étais très ému de la façon dont il évoquait sa chère Romy Schneider, son amour de jeunesse. Julie, être acteur, ça ne s'apprend pas, c'est de l'instinct. Au départ, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tout passe par les yeux, Julie. Utilise ton regard, me disait Alain Delon. Comme un grand livre ouvert, il se racontait, partageait avec moi des pans de sa vie, ses souvenirs intimes. Tel un mentor, il prodiguait ses conseils à la jeune actrice que j'étais. En tout bien tout honneur, sans ambiguïté aucune, avec l'intensité, la fougue et l'éloquence qu'on lui connaît. J'avais l'impression de vivre un rêve. C'était surréaliste. Pourquoi me racontait-il tout ça à moi? Le soir, je rentrais dans ma chambre d'hôtel et je noircissais les pages de mon journal intime pour ne rien oublier. Cette relation s'est poursuivie quelques années. Alain suivait tout ce que je faisais, me conseillait, me mettait en garde contre ce métier parfois si cruel et injuste. En 1996, Alain Delon avait invité mon père en visite à Paris et moi à venir le voir au Théâtre Marigny, dans la pièce « Variations énigmatiques » d'Éric-Emmanuel Schmitt. S'en est suivi un repas à sa table, il avait toujours la même, au célèbre restaurant Le Fouquet, avenue des Champs-Élysées. Je garde le souvenir d'une soirée extrêmement agréable et chaleureuse où nous avons discuté simplement pendant des heures. Alain était un autodidacte, un homme curieux, qui ne se lassait jamais d'apprendre et à ma grande surprise, il en connaissait beaucoup sur le Québec et le Canada. À la fin de la soirée, d'une façon très amicale et bienveillante, il s'est approché de mon père afin de le rassurer. Ce n'est pas évident d'avoir une fille seule dans cette jungle parisienne à 6 000 kilomètres de chez vous. Mais sachez, monsieur Dupage, que je veille sur elle, tel un père spirituel. Alain Delon était un être complexe, trouble, souvent décrié pour ses prises de position, ses accointances ou la façon pompeuse qu'il avait de parler de lui à la troisième personne. Je n'ai pas connu cet homme-là. Je retiendrai de lui un immense acteur sans demi-mesure, un homme passionné, passionnant, généreux et humain, mais surtout, un être profondément mélancolique, écorché vif, qui avait tout et qui n'avait rien, qui était si entouré et finalement si seul. Au revoir Alain, et merci. C'était « Souvenir d'un mentor autodidacte et curieux », un texte de Julie Dupage, paru le 19 août 2024 dans la presse.